VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 14h à Kigali, bienvenue à notre journal. Au Rwanda, les diplomates occidentaux en poste à Kigali ne cachent pas leurs préoccupations concernant une mesure de la commission électorale visant à contrôler les publications de campagne sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août. À preuve, leur déclaration à ce sujet mardi, Eric Manirakiza.
L'ambassadrice des États-Unis a parlé de très très sérieuses limitations de la liberté d'expression. Erika Bax-Ruggers s'exprimait pendant un dialogue organisé par l'Union européenne en présence du ministre rwandais de la Justice. De son côté, Michael Ryan, ambassadeur de l'Union européenne, s'inquiète de savoir où les lignes sont tracées. Enfin, l'ambassadeur d'Allemagne, Peter Wurtz, se demande si la censure est la meilleure voie pour empêcher les discours de haine. La Commission électorale nationale a publié une directive prenant effet à partir du 14 juillet, date du début de la campagne électorale. Cette mesure exige à tous les candidats de soumettre au moins 48 heures avant les messages, photographies ou autres matériels de campagne qu'ils souhaitent publier sur les réseaux sociaux. L'opposition a également critiqué cette décision. Elle craint son utilisation pour empêcher toute voix discordante au régime du président Paul Kagame. Quatre candidats ont déclaré leur intention d'affronter le président Kagame, mais doivent encore recevoir l'aval de la commission électorale.
Au Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta a inauguré aujourd'hui le plus grand projet d'infrastructure accompli dans le pays depuis son indépendance en 1963. Une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi au port de Mombasa sur l'océan Indien et devant asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est en direction des pays des Grands Lacs. Ce sont 472 kilomètres de rails financés et construits principalement par la Chine qui ont vocation à remplacer le Lunatic Express, la ligne construite autrefois par le colon britannique. Kenya toujours, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés fait état de fraude et de graves malversations découvertes dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-est du pays. Plus de détails avec Claire Morin-Gibour.
Après des allégations de fraude, de corruption, de menaces et d'intimidation dans le camp, le HCR a lancé une enquête. Dans un communiqué publié hier, l'agence onusienne a confirmé l'implication de 5 membres du personnel du camp contre lesquels une série de mesures a été prise. Dans 3 cas, il y a eu dénonciation à la police kenyane et l'une des personnes a été arrêtée. 2 des 5 personnes impliquées ont démissionné et des procédures disciplinaires sont en cours contre les 3 autres. Le HCR a par ailleurs lancé un examen interne et indépendant qui a abouti à des recommandations afin d'accompagner les actions disciplinaires prises contre ceux qui ont commis les malversations. Par mesure de sécurité, les opérations de réinstallation à partir de Kakuma sont suspendues. Aucun détail n'a été donné sur les fraudes et les malversations.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a mis fin en fonction de 2 ministres, selon un décret lu mardi soir à la radio nationale. Il s'agit du ministre de l'aménagement du territoire, Hamid Mahamat Dahalob, et de celui des mines de la géologie, David Oudengar. Selon l'AFP, citant une source officielle qui a requis l'anonymat, les 2 ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes de guerre commis entre 2003 et 2015 sera bientôt à pied d'œuvre après l'installation officielle de ses membres. Mais pour la société civile et les organisations des droits de l'homme, la mission de cette institution internationale judiciaire dirigée par le procureur spécial Toussaint Moutazini de la RDC doit s'étendre aux crimes commis au-delà de 2015 jusqu'à nos jours. On écoute Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Il y a des dispositions pertinentes pour la création de la Cour pénale spéciale qui indiquent que toutes les personnes victimes peuvent saisir immédiatement le procureur spécial par une plainte avec constitution de partie civile sur des faits dont la gravité relève de la compétence de la Cour pénale spéciale. Donc il est probable que, malgré que les experts ont travaillé sur la période allant de janvier 2003 à décembre 2015, les victimes qui ne sont pas dans cette catégorie peuvent toujours saisir la Cour pénale spéciale. spécial. Les organisations de la société civile que nous sommes, nous avons de notre côté documenté des crimes, placé la cartographie de ces crimes-là sur le territoire national. Nous continuons de recevoir les parties civiles et nous continuons de documenter des crimes que nous pensons vont être tirés par la Cour pénale spéciale.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, en RCA.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, la première dame du Nigeria, Aïcha Bouhari, est depuis hier à Londres, au chevet de son époux, qui suit actuellement un traitement médical dans la capitale britannique. Le voyage de Madame Bouhari intensifie les inquiétudes sur l'état de santé du président nigérian, Tatiana Mosso.
Lundi marquait le deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Bouhari. Les deux premières années de son mandat ont été ternies par ses problèmes de santé récurrents et des interrogations sur ses capacités physiques à diriger le pays. En début d'année, il a été près de deux mois à Londres pour des raisons de santé avant de repartir à nouveau début mai. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées et son entourage est désormais totalement silencieux. Si Mohamedou Bouhari démissionne de la présidence ou s'il vient à décéder, le pouvoir reviendra à son vice-président, Yemi Osinbajo. C'est lui qui s'est rendu au sommet G7 en Italie la semaine dernière. L'absence du chef de l'État crée un vide et un manque de décisions politiques majeures, alors que le Nigeria, géant de 190 millions d'habitants, traverse une grave crise économique.
Au Burkina Faso, la compagnie Air Burkina est désormais propriété de l'État burkinabé. Le groupe Aga Khan, qui en était propriétaire, a décidé de céder ses actions à l'État burkinabé pour un franc symbolique. Une transition qui réjouit le ministre des Transports du pays des Hommes Intègres, Souleymane Soulama.
Il a appartenu à l'État pendant plus de 30 ans et ensuite on a privatisé et le groupe Aga Khan l'avait racheté effectivement. Le groupe a décidé de céder à un franc symbolique. Cela veut dire que nous allons reprendre la compagnie sans dette. Donc ça fait que nous prenons en tout cas une compagnie sans problème. Maintenant c'est à nous de pouvoir insuffler ce dynamisme-là pour assurer la continuité, poursuivre l'œuvre qui a débuté depuis 50 ans.
Souleymane Soulama, ministre des Transports du Burkina Faso. Et puis en Côte d'Ivoire, la vie reprend son cours normal à Bouaké, épicentre des mutineries du mois de mai. La seconde ville du pays, ex-fief de la rébellion ivoirienne de 2002 à 2011, tente d'exorciser les démons de la violence, nous dit notre correspondant sur place, Siriki Barrault.
Les derniers événements tragiques perpétrés à Bouaké par les soldats mutins et les ex-combattants démobilisés revendiquant des primes à l'État ont replongé la ville dans un climat de méfiance et de peur. Cette ville est en train de redevenir un véritable cauchemar pour les populations. Bosso Blandine est enseignante. Elle a été victime d'une balle perdue lors de la mutinerie du 12 mai, chose qui l'a énormément affectée.
Ce moment était très douloureux pour nous et la balle que j'ai reçue vraiment m'a bouleversée et découragée pour la vie à Bouaké parce que nous sommes venus ici pour travailler. À la longue, tout fonctionnaire qui sera amené à être invité à travailler ne va pas accepter à cause de la peur.
Dans les commerces, les activités tardent à retrouver leur vitesse de croisière. Boué Gisèle est responsable commercial dans une entreprise informatique. Elle note une baisse significative du chiffre d'affaires de son entreprise.
Pendant des jours, on n'a pas vendu. Vraiment, les chiffres d'affaires ont chuté, tout ça. On ne souhaite plus revoir ces événements.
Chez les transporteurs, le son de cloche est différent.
Ouattara, chef de gare, après la mutinerie, la reprise au niveau de notre activités ici, ça se passe très bien. Les populations sont sorties. Bon, le chiffre d'affaires avait baissé, il faut le reconnaître, pendant la mutinerie puisque les camions étaient bloqués au corridor. Mais tout juste après, les clients sont venus, on a travaillé sans problème.
Les mouvements d'humeur des soldats et des ex-combattants démobilisés ont sans aucun doute entaché la dynamique de paix et de développement que la ville avait amorcée depuis quelques années. Instaurer un dialogue franc entre le gouvernement, les hommes en armes et les ex-combattants démobilisés afin d'éviter tout retour à la violence. Une solution que proposent certains habitants.
Qu'on essaie d'oublier tout ce qui s'est passé, qu'on aille de l'avant.
Et nous souhaiterons que les hommes en armes aient une conscience afin de penser à la population et de pouvoir dialoguer lorsqu'ils ont une revendication.
Je pense qu'on pouvait mieux se comporter, ça ne sert à rien qu'en cas de mécontentement, on s'en prenne au bien public.
Pour l'heure, Bouaké essaie de vivre en pansant ses plaies. Bouaké vit toujours dans la peur de sombrer encore une fois dans le chaos. Siriki Barrault, Bouaké pour VOA Afrique.
Et vous terminez en Afghanistan, au moins 80 morts et des centaines de blessés. Le bilan d'un attentat au camion piégé à Kaboul, la capitale.